idéologique. C'est pas son laïcis capriolus. Lotchi, théologici. Je l'avais demandé, puis il n'a pas été donné. Ça fait rien. Si je le retrouve, je vous le montrerai. C'est bon de le voir. Ça fait partie de l'érudition théologique. Bon dominicain, capriolus. Ça fait partie de la famille, vous voyez. Capriolus, c'est un mineur au point de vue spéculatif. Alors il s'est rabattu sur les lieux théologiques. Alors les lieux théologiques, c'est quelque chose de très spécial. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir Capriolus. J'ai lu ça. J'ai lu très, très attentivement Capriolus. Parce que ça fait partie de la tradition dominicaine au point de vue des théologiques. C'est pas très drôle à lire. Pas drôle du tout. Mais c'est intéressant. Vous voyez, c'est une espèce de parallélisme des topiques d'Aristote. Les lieux, l'otchis, où on donne tous les arguments. C'est une transposition. Alors, c'est assez curieux. Mais au fond, on pourrait presque dire, c'est une partie. Dans la cuisine, prenons l'exemple de la cuisine, parce que ça est très proche de nous. Alors il paraît qu'il faut bien voir qu'il y a deux autorités, de temps en temps les frères, de temps en temps les sœurs. Donc de temps en temps, les frères peuvent obéir aux sœurs, de temps en temps les frères. Et comme ça, ça fait une réciprocité merveilleuse dans l'amour d'amitié. Dans la charité fraternelle, eh bien, il y a le katsos, il prépare tout. Il y a le cuisinier. Pour les gâteaux, c'est l'aide. Et le grand cuisinier, il ne prétend pas que le katsos mette sa main là-dessus. Et il a ses secrets. Eh bien, les lieux théologiques, c'est une réflexion. C'est une réflexion sur tout ce qui prépare la théologie. Tout ce qui a été dit, vous voyez, une espèce de grande information. Grande information, il faut avoir ça. On va faire un petit traité sur la paternité. On va regarder ce que les philosophes ont dit sur la paternité. On va regarder ce que les pères de l'Église ont dit sur la paternité. On va regarder ce que les encycliques ont dit sur la paternité. On va regarder sur ce que la révélation écrite et biblique a dit sur la paternité. Voilà les lieux de la. Et alors, on va graduer la valeur de l'autorité de ces différents documents. Dites-vous un peu un aspect critique et dialectique, au sens aristotélicien dialectique, des lieux. On prépare toutes les informations. Aristote fait ça quand il fait un traité topique historique. Ce que j'aime dire topique historique. Regarde ce que les... Vous voyez, c'est le respect à l'égard de la tradition. Je respecte la tradition. Je ne suis pas un blanc-bec qui croit que, avant moi, il n'y avait personne. Avant moi, on n'a rien dit d'intéressant. Moi seul, je suis dit quelque chose d'intéressant. Sur Saint-Jean, on n'a rien dit d'intéressant avant. Non, non, non. Je suis le seul à pouvoir dire quelque chose maintenant. J'ai consacré toute ma vie. Donc, puisque j'ai consacré 45 ans pour travailler ça, c'est intéressant. Combien de temps avez-vous dormi? C'est pas ça. On doit regarder qu'est-ce que saint Thomas dit sur saint Jean. Parce que c'est un saint. Qu'est-ce que saint Jean de la Croix dit sur saint Jean? Parce que c'est un saint. Ce vif flamme d'amour, Jean de la Croix, commence par une parole de saint Jean. Les demeures. La très sainte Trinité demeure en nous. Et c'est ce mystère de Dieu qui demeure en nous, qu'il chante. Ben, pour moi, ça fait partie de ma théologie sur Saint-Jean. Je ne peux pas rayer les flammes d'amour de la théologie. poésie, on dira, oui, c'est la poésie mystique. C'est le mystique de Sadova. C'est quelqu'un qui a vécu de ça et qui chante. Il est dans l'église. Oui, c'est très important les lieux théologiques. Ça ouvre mon intelligence, tout grand, et ma foi. Et je comprends que la théologie est une sagesse qui est la cathédrale de la pensée. C'est la cathédrale de la pensée, la théologie. Alors évidemment, il y a des cathédrales qui sont comme celles qu'on est en train de construire à Ivry. Drôle de cathédrale de la pensée. Mais quelquefois c'est comme ça, aujourd'hui. On a pris tous les symbolismes pas très traditionnels, pas très des pères de l'Église, mais ceux qui sont à côté. Tu m'as dit toujours un peu à côté, les gnoses. C'est très intéressant, ça, vous voyez. Et les Lotchi, ce serait palpitant de reprendre ça aujourd'hui dans une perspective critique. Vous voyez. Comme il y a les degrés du savoir en philosophie, eh bien, il y a ça au point de vue théologique. Le théologien sait que la théologie prend son bien partout. Et le théologien doit prendre son bien partout. Partout, il y a une petite étincelle de vérité. Je peux introduire Claudel dans la théologie. En faisant attention, hein. En faisant attention. Ou il y a quelque chose d'intéressant, je peux très bien. Ou Rose Balthazar fait ça. Oui, vous pouvez citer Rose Balthazar comme ça. C'est intéressant de savoir où on peut citer Rose Balthazar. Mais c'est les, j'allais dire, les lieux théologiques, c'est supprimer toutes les frontières. Mais en critiquant tout. Je peux supprimer toutes les frontières quand j'ai une critique saine. Mais la critique saine repose nécessairement sur déjà des réalités qui existent. Alors on va essayer de voir ça, si vous voulez bien. Première chose, je fais deux tableaux, parce que c'est important de bien voir ces choses-là. Si j'oublie quelque chose, j'avais eu Capriole, j'aurais rien oublié, mais ça fait rien. Si j'oublie quelque chose, on reprendra cet après-midi avec Capriole. Parce que c'est intéressant de voir ça. Parce que c'est quand même quelque chose qui existe. Il faut savoir que ça existe. Quand on fait de la théologie sur Saint-Amand, on ne parle pas de capricieux, il vient après. Alors, je prends d'abord la sagesse de Dieu. Créatrice. Et la sagesse de Dieu, rédemptrice. La croix. La croix glorieuse. La sagesse de Dieu se communique à moi par la création, puisque elle m'a créé. Et je suis lié à la sagesse créatrice de Dieu. Et l'homme, chef-d'œuvre de Dieu, âme et corps, et dans l'âme, l'intelligence, l'âme spirituelle, qui est l'aspect principal. Bien, mon intelligence est capable de redécouvrir par elle-même ce mystère de la création. Comment peut-elle le faire? En regardant les réalités qui sont autour d'elle et en regardant ce qu'elle est. Elle remonte jusqu'à Dieu. Mon intelligence est capable d'atteindre la vérité. Donc il y a une première vérité. Nous sommes dans la vérité. Il y a une première vérité au niveau philosophique. Et mon intelligence rejoint la sagesse de Dieu quand elle rejoint le Créateur. Et quand elle regarde tout dans la lumière de la création. L'intelligence acquiert une sagesse philosophique. J'ai pas le droit de négliger ça. intelligence et d'un des talents que Dieu m'a donné. Chez certains, l'intelligence est merveilleuse. Chez d'autres, un peu alourdie, parce qu'on ne l'a pas du tout. À cause des conséquences du péché originel, j'ai été paresseux. On peut tous s'accuser de paresse. Hein. Entre 4 ans et 17 ans, on a tous été paresseux. Exceptionnellement, peut-être. Il y a peut-être une religieuse qui n'a pas été paresseuse entre 7 ans et 14 ans. Je ne révèle aucun secret de la confession en disant ça. Peut-être. Peut-être qu'il y a une religieuse qui n'a pas été paresseuse. Mais c'est l'exception. Et comme elle est très humble, elle dit comme tout le monde, j'ai été paresseuse. Mais elle ne l'a pas été. Ça m'est arrivé. Chez les filles, ça arrive plus facilement. Les garçons, jamais. Jamais. Tous étaient paresseux entre eux. On aimait mieux jouer, on aimait mieux faire des tas de bêtises que de travailler. Et alors on avait la grande sœur ou la petite sœur qui, elle, au contraire, travaillait avec eux. Oh, c'est merveilleux. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et alors, le péché, conséquence du péché originel, ne touche pas notre intelligence. Notre intelligence est intacte. Parce que elle émane directement de l'âme créée par Dieu. Le péché originel se communique par le corps. Mais il touche l'âme, puisque l'âme ne touche pas. C'est pour ça que c'est si important quand l'Église souligne que le péché originel se communique par le corps. Parce que le corps, il ne vient pas directement de Dieu. Il ne peut pas venir de l'âme, donc il ne peut pas toucher l'intelligence. Il touche notre manière d'exister, le status. Et là intervient justement les conséquences du péché originel, l'orgueil, la concupiscence de la vie, la concupiscence des yeux, la vanité, et puis la concupiscence de la chair. D'où vient le corps ? Il y a alourdi l'âme. Mon âme est alourdie. Et c'est pour ça que j'aime pas de cultiver mon intelligence. Parce que mon intelligence me donne des ailes. Ça me permet d'aller au-dessus. Je suis alourdi par le péché. Donc, c'est ça qui est très important pour saint Thomas. C'est que mon intelligence humaine est capable d'atteindre la vérité, la sagesse de Dieu. Dieu, je peux. Et je suis capable d'atteindre une quantité de vérité. Une vérité philosophique, une vérité scientifique, une vérité mathématique, une vérité dans l'ordre artistique, toutes les vérités. Donc la vérité est une notion analogique, comme l'intelligence. Dieu me révèle. La révélation qui s'est faite en premier lieu. On peut dire tout de suite. La révélation est contemporaine au péché. C'est extraordinaire. Selon la Bible. À peine Adam et Ève ont péché, Dieu est venu les réveiller. Ils ont eu peur. Il y a eu le premier exorcisme. C'était lié par la patte au serpent. Et il y avait les a réveillés. Ils ont peur. Ils ont eu très peur. Très peur d'être réveillés par Dieu. Et Dieu les a réveillés. Et Dieu leur a parlé. Donc il y a une première révélation. Et une révélation qui est tout de suite ordonnée au Sauveur. Une première révélation très nébuleuse, si vous voulez, très primitive, au-delà de l'histoire, sous un mode symbolique, mais d'un symbolisme divin, donc qui exprime quelque chose de réel. C'est vrai, les 11 premiers chapitres de la Genèse sont sous un mode symbolique. On peut même dire sous un mode, vous voyez, qui implique le mythe. mais un mythe divin, ajoutez ça tout de suite. Il y a un symbole divin qui exprime une réalité. Je devrais préciser. Et il y a une révélation. Les 11 premiers chapitres de la Genèse sont révélés. C'est une révélation très primitive. Qu'il faut beaucoup aimer. Adam avec Abraham, historiquement. Il y a des zones préhistoriques. Alors, avec Abraham, révélation dans l'histoire. L'histoire s'introduit là. C'est très important de voir que la révélation est antérieure à l'histoire. Antérieure. Dieu enveloppe l'histoire. Dieu est plus que l'histoire. Il a créé dans le temps. Et l'acte créateur de Dieu est éternel, il est au-dessus. Et la révélation permet de rejoindre quelque chose d'éternel, tout de suite. Alors, avec Abraham, c'est l'histoire, ça c'est sûr, on commence. Une histoire très difficile à préciser, mais c'est quand même l'histoire. Et cette révélation va impliquer toute une histoire. Donc un devenir, ça c'est sûr, il y a un devenir dans la révélation. Avec des personnes, on verra ça. Abraham, Isaac, Jacob. Puis Moïse. Et puis alors la révélation prend sa plénitude avec le Christ. La plénitude de la révélation. Et cette plénitude de la révélation avec le Christ est achevée dans le Christ. Vous voyez qu'il y a des moments différents. Il y a des moments différents dans la révélation. Dieu a voulu cela. Pourquoi ? Parce que Dieu s'est servi de l'homme pour nous révéler. Il s'est servi de l'homme. Puisque Dieu s'est servi de l'homme et que l'homme est dans une histoire, la révélation est une histoire. La révélation en elle-même est au-dessus. Mais elle s'incarne dans la pensée de l'homme, dans la parole de l'homme, dans les gestes de l'homme, parole et gestes de Christ. Ensuite, donc sagesse de Dieu est dans ça. Là, on a la révélation. Vous avez donc ces deux moments, ces deux modalités tout à fait différentes qui sont précisées dans l'Écriture elle-même. Ça qui est intéressant. Première épître aux Hébreux. Premier moment de la révélation, deuxième moment de la révélation. Et la plénitude. Le prologue de Saint Jean. Le prologue de Saint Jean ponctue les révélations de Zachée. La création. Le Verbe éclaire tout homme venant en ce monde. C'est là. Puisque Dieu crée par le Verbe. Donc il éclaire par l'intelligence humaine, tout homme venant ce monde. Puis les siens. Puis le Christ. Les trois moments. Donc le prologue de Saint Jean. Le prologue de Saint Jean ponctue ces diverses modalités de la vérité, ces diverses modalités de la révélation. Troisième moment de la révélation, proprement dite. De la révélation chrétienne, si vous voulez. Parce que là, c'est prêt. La révélation proprement dite commence avec Abraham. Alors après, l'Église. Et entre le Christ et l'Église, il y a la tradition. Tradition chrétienne. Le mystère de Marie pour moi. Il y a la tradition. La parole du Christ a d'abord été gardée dans la bonne terre. Elle a d'abord été gardée dans le cœur de Marie. C'est dit explicitement. Et la parole paroles de Dieu ayant été gardées dans le cœur de Marie. Marie est donc, j'allais dire, le premier moment de la tradition chrétienne. Il y a une tradition avant, mais cette tradition avant est en vue de la venue du Christ. Tandis que Marie, elle enveloppe, ça qui est extraordinaire, elle enveloppe l'Ancien Testament, la fin, et puis le mystère de Jésus, et le début de l'Église. Elle fait le lien. Et elle fait le lien dans sa foi, dans son espérance et son amour. Et elle est le point de départ de la tradition. Elle est porteuse de la tradition, Marie. Au sens très fort. Et la tradition, c'est pas seulement Marie, c'est Pierre, c'est tous les apôtres. Tous les apôtres sont porteurs de tradition. Et ceci est net, que Dieu, dans sa sagesse, n'a pas voulu que Jésus écrive un évangile. Je pense toujours à ça. Jésus aurait dû, par affection pour nous, chaque jour, le soir, écrire ce qu'il avait fait la journée, en attendant la date. Et demander à Pierre, tu es bien d'accord? Demander à Jean, tu es bien d'accord? Demander à Jacques, tu es bien d'accord? Les trois. Parce que d'abord, c'est très bien, mais pas beaucoup de fruits. Tandis qu'il aurait fait ça, il aurait eu du fou. Vous voyez l'efficacité. Vraiment, Jésus a manqué d'efficacité. Il n'a pas prévu qu'on serait des historiens, quoi. Qu'on aurait besoin d'un livre vraiment historique. Il avait mis ça pendant 3 ans. Vous voyez, ça aurait été étonnant. Étonnant. Un livre sacré, écrit par Jésus, écrit par lui. Non, il n'a rien écrit. Il y a une raison de sagesse là-dedans, la tradition. Alors pourquoi, vous voyez, c'est là où le théologien doit se poser, pourquoi Jésus n'a pas voulu écrire son évangile? C'est-à-dire, je ne peux pas le savoir, c'est vrai, je ne peux pas le savoir. Je peux quand même essayer de trouver des raisons, comme ça Thomas appelle, vous savez, les convenances. C'est très important, les convenances, d'un regard de sagesse. Et je crois que c'est très important pour nous aujourd'hui de se poser la question. C'est que la parole de Jésus est une parole vivante. Elle n'est pas un écrit. Notre religion chrétienne est liée à une personne, à une parole vivante. Elle n'est pas liée à un écrit, comme le Coran. Et Jésus voulait nous le vivre, ça, et le faire vivre à ses apôtres, et le faire vivre à Marie. C'est une parole vivante. Et elle est vivante parce qu'elle est reçue dans le cœur des saints, dans le cœur de la sainte, dans le cœur d'une mère. Vous voyez, la tradition est maternelle. C'est très maternel, les traditions. C'est les mères qui gardent les traditions. Ma mère me disait toujours, ce qui est très important dans une famille, c'est le choix des fils, des garçons par rapport à leur épouse. C'est ça qui est capital. Les filles peuvent se marier n'importe comment, ça n'a pas d'importance. C'est elles qui sont la tradition. Ce qui est très juste. C'est la femme. Et le peuple juif a gardé ça. Quand on a une mère juive, on est juif pleinement. Et quand on a un père juif et une mère qui n'est pas juive, pas tout à fait. Mais c'est très curieux, ça. Et il y a là quelque chose de très important. C'est Marie qui est source de la tradition. Je me souviens avoir une fois écrit ça. J'ai reçu une lettre d'injure, évidemment d'un curé. Pas d'une religieuse. Mais j'ai dit quand même, vous ne pouvez pas dire ça. Vous excluez les apôtres. La tradition, c'est les apôtres. J'ai écrit avant les apôtres. Elle est la mère des apôtres. Et Marie est la mère de la tradition. Elle est source de la tradition. Si je coupe Marie de la tradition, je coupe le fondement premier. La tradition chrétienne commence par une mère. Et il y a quelque chose de maternel. Vous voyez, c'est parce parce que la parole du Christ est une parole vivante. La parole d'un père, la parole d'un ami, la parole d'un époux. Donc c'est une parole aimante qui transmet un secret. Elle transmet un secret. Alors, elle demande d'être reçue dans un cœur. Et non pas sur papier. Quand vous écrivez, vous figez. Quand vous gardez dans votre cœur, ça peut être quelquefois un peu moins précis. C'est vrai. Mais c'est bien plus affectueux. Mais je garde toujours une parole. Première fois que j'ai travaillé Socrate. Quand quelqu'un demande à Socrate de lui parler, es-tu mon ami? Si tu es mon ami, je peux parler. Alors, je n'ai pas noté la référence. J'ai demandé à quelqu'un, connaissez-vous Couplet, on a recherché. Il n'a pas trouvé. Alors, j'ai dit, je l'ai inventé, la tradition. Parce que c'est ça, Socrate, c'est la tradition. Socrate n'a rien écrit. Mais y a-t-il une tradition philosophique? Il y a une école. Pas la même chose, l'école et la tradition. Ça nous aide à mieux comprendre ce que c'est que la tradition, de comprendre ce que c'est qu'une école. Il y a des écoles de peinture, il y a des écoles philosophiques, il y a des familles spirituelles. Il y a une tradition. Il y a des traditions monastiques, il y a des traditions religieuses. Et c'est vrai ça. Il y a une tradition religieuse. On n'invente pas ça tout seul. Ça se fait progressivement. On est lié. Alors c'est très très important ce mystère de la tradition que l'Église a toujours gardé. Toujours. Toujours. Et elle a mis toujours en parallèle tradition. Et écriture. Elle n'a pas mis en parallèle tradition et parole. Tradition et écriture. Parce que la parole est source de la tradition. Et l'écriture. Elle est au-dessus. Parole vivante. C'est parce que c'est une parole vivante qu'elle réclame la tradition. Qu'elle réclame le cœur de Marie. Parce que Marie est la source. C'est très vrai quand on dit dans la tradition, quand on veut traiter sur la tradition, on ne parle pas de la Vierge Marie. Je trouve ça lamentable. Non, Capriolus n'en parle pas. Là, on verra ça, parce que c'est pourquoi tout ça, pourquoi ces oublis. Alors, ce qui est important, donc, c'est de comprendre la tradition entre le Christ et l'Église, avec Marie comme intermédiaire. Marie est d'Église, et Marie est source de l'Église, mère de l'Église. Elle est dedans, oui. Elle est fille de l'Église, et elle est mère de l'Église. Je me souviens, je peux dire aussi ça en anecdote. Je ne dirais pas c'est qui. C'était le jour du Mont Carmel. J'étais dans un Carmel. On ne m'avait pas prévu, donc on avait invité une sommité. Je ne dis pas qui. Une sommité. Prêcher sur le Mont Carmel, Marie. Alors, c'était juste après le concile. Alors, on va dire, concile, c'est quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire. Ça a développé quelque chose qu'on n'avait pas pensé jusque-là, et qui éclaire tout. Marie est fille de l'Église. Je n'ai pas vu la réaction des carmélites, parce que c'était encore du temps où il y avait des voiles, on ne voyait rien. J'aurais aimé regarder. Marie est fille, Marie est mère de l'Église. Marie est mère de Dieu. C'est vrai qu'elle est fille d'Église. C'est très vrai. Comme Sainte Thérèse est fille d'Église. Pas de la même façon. Alors ça, c'est un problème très intéressant. Marie et la tradition. Et le lien entre le Christ et l'Église, la tradition. Qui joue énormément. Surtout aujourd'hui. C'est un des gros problèmes d'aujourd'hui. Et la tradition continue avec l'Église. Elle est antérieure à l'Église. Comme Marie. Elle est antérieure à l'Église. Et elle est coextensible à l'Église. Et elle dure. La tradition n'est pas arrêtée avec Pie XII. Selon certains. Je n'ai pas le droit de dire ça. Parce que la tradition me porte. Je ne suis pas juge de la tradition. Aucun chrétien n'est juge de la tradition. C'est l'Église, dans son autorité suprême, le Saint-Père, seul. Alors c'est la question de savoir, au point de vue théologique, ça c'est une autre question. Est-ce que le pape peut être hérétique? L'Écriture l'a dit, hein. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Le pape peut être un pécheur, il ne peut pas être hérétique. C'est un faux problème. C'est déjà aller contre l'autorité du pape que de se poser la question. Il ne peut pas être hérétique. Il peut donner sa démission de pape. Il vient, ouais, viens, tous. Mais tant qu'il est pape, il est pape. Et la prière du Christ est présente. Elle est actuelle. Et le second esprit saint est actuel. Donc, la tradition et l'Église. Alors, vous voyez bien que dans l'Église, quatrième moment, le dogme. Le dogme est porté par la tradition et par l'Écriture. Alors, dans l'Église, il y aura l'Écriture. Les livres sacrés. Avec les évangiles. Ils porteront les livres sacrés de l'Ancien Testament. Puis il y aura les livres sacrés du Nouveau Testament, qui seront, quand l'Église aura déjà un tout petit peu vécu. L'Église a vécu un moment familial, merveilleux. Puis il y a eu les écrits. Puis il y a eu les dogmes, les conciles et les dogmes. Les conciles. On va les mettre là. Les conciles et les dogmes. L'Église a le droit, à un moment donné, de se mettre à réfléchir, d'avoir son conseil. Les cardinaux et les évêques. Et de réfléchir sur la vie de l'Église actuelle. Est-elle conforme à la tradition? Est-elle conforme à la tradition? On ne dit pas est-elle conforme à l'Écriture. Fondamentale, la tradition. C'est pour ça que c'est si important. C'est par là que la parole de Dieu est une parole vivante. Donc, les dogmes. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore, hein? L'enseignement ordinaire de l'Église. 5. Est-ce qu'il faut mettre ça en rouge? La révélation comporte donc la révélation chrétienne. Comporte donc quatre modalités. Si vous en avez une cinquième, vous le direz, on pourrait en mettre une cinquième. On pourrait en mettre une cinquième. Mais avant cinq, là, je pourrais en mettre une cinquième. Pas pour le plaisir d'avoir cinq, mais l'Église qui canonise. L'organisation des saints est un acte très important dans l'Église, dans l'ordre pratique, dans l'ordre du gouvernement d'Église. Donc les saints canonisés. Parce que quand le Saint-Père canonise, il fait un acte où il nous révèle les gestes. Vous voyez, comme dans la révélation, comme dans l'Écriture, donc comme dans la Révélation, il y a parole et geste. La canonisation des saints fait partie des gestes. Parce que ce sont des personnes qu'on met comme modèle pour l'Église, pour toute l'Église. Quand l'Église canonise la petite Thérèse, il la fait sortir de clôture. C'est plus seulement pour le Carmel, c'est pour toute l'Église. Et une religieuse de Saint-Jean peut être plus proche de la petite Thérèse qu'une carmélite. Les carmélites n'ont pas le droit de dire, elles n'ont pas le droit de dire ça. Il n'y a que les carmels qui comprennent la petite Thérèse, pas du tout, elle est sainte. Pour tous les saints, c'est comme ça. Il y a tous les saints. Donc ça fait partie de la révélation. Un mode spécial de la révélation. Il y a les condamnations. C'est négatif donc. Je laisse de côté. C'est la taille du Père. Est-ce que la condamnation, alors la condamnation dans l'Église, quand il s'agit de l'hérésie, alors là oui. C'est parallèle au dogme. Parce que c'est le dogme qui affirme. Et puis, on affirme anathémacite. Venez, donc, ça revient au même. C'est l'aspect négatif qui vient confirmer l'aspect positif. Comme toujours dans le mode humain. Il y a toujours la négation qui vient confirmer le point de vue positif. Mais pour les saints, il n'y a que les saints. On n'a jamais dit, ah, celui-là est un brigand, il est sûrement dans l'enfer. Une vérité. Et les rites sont quand même pour manifester, et les liturgies sont pour manifester la vérité. Ça enseigne. On est enseigné par la liturgie. La liturgie enseigne. Vous voyez ? Très bien. Comme ça, vous y réfléchirez. Parce que j'avoue que je n'ai pas beaucoup réfléchi là-dessus. Il faut se poser la question, puisqu'on se pose la question de la révélation. Donc tous les modes de la révélation, c'est quand même intéressant. Puisqu'après on met les encycliques. Alors est-ce que c'est au niveau des encycliques? Ce que je croirais assez bien, inspiré par révélé, et on dirait, allez compte, ce serait très imprudent, c'est une question de prudence. C'est plus une question, ce que je croirais assez bien. Vous voyez, vous avez six après, les encycliques, et vous mettriez peut-être parallèlement la liturgie. À titre d'hypothèse, pour réfléchir. Parce que Capriolus ne dit pas ça. Donc je n'ai pas de maître.
Non, pas le jour même, je pense pas. Mais, je vous dis, il est au catéchisme, donc il y a des confirmations. Dans la paroisse, dans la paroisse voisine. Ben, vous le mettrez... Oui, vous ferez rattraper.
Et il faut demander...
Ah ben non, s'il est dans la confirmation de tout le monde. Ah non, simplement, ben il a été baptisé 3 mois avant, très bien. Ah oui, à ce stade-là. Ben c'est comme pour les catéchumènes qui sont baptisés à Noël et puis qui seront confirmés à la Pentecôte. ou qui sont baptisés à Pâques et qui sont confirmés à la Pentecôte. Non, pourra. Pourra.
Il n'est pas tenu à
la Non, pourra. Là, il faut prendre le texte. Où est-ce que c'est? On a dit. C'est le 890, c'est ça, je crois. 91. Oui. Le texte, c'est bien celui-là. En fait, ça reste assez joyeux comme des bandades. Vous voyez, à la décision de chaque évêque pour son diocèse, l'âge de la confirmation pourra se situer à la période d'adolescence. Donc, ça pourra aussi ne pas l'être. Autrement dit, ça, c'est indicatif. La conférence épiscopale française souhaite globalement que les enfants soient confirmés entre 12 et 18 ans. C'est ça, je crois, la conclusion qu'on tire. Alors, si l'évêque dans son diocèse le fait autrement, il peut. Ce qui montre bien qu'ils n'étaient pas d'accord. Hein? Mais c'est peut-être bien comme ça. Enfin, c'est la fête. Oui. Il faudrait demander, moi je connais pas bien les.
Ça dépend des conférences épiscopales.
Sans doute.
On est obligé d'attendre que l'enfant ait 7-8 ans pour qu'il demande lui-même le baptême.
Ah bon? Ah ben ça c'est sûrement parce qu'il doit y avoir des raisons, des bonnes raisons à cela, et ça a dû être effectivement décidé probablement maintenant par les conférences épiscopales. Là je connais pas du tout l'Église en Afrique, donc je ne veux rien en dire, mais si ça se fait comme ça, c'est que ça a dû être prévu, enfin.
Si l'Église n'appelle pas le père ou la mère de celui qui va être baptisé ou confirmé comme parrain, est-ce que ça a des conséquences contre le sacrement une fois le sacrement est donné?
Non. Non. De toute façon, le père et la mère, vous comprenez, ils ont un devoir né de s'occuper de leurs enfants. Et comme le parrain, quand même, l'un des rôles du parrain, c'est de pouvoir remplacer éventuellement les parents qui disparaissent, dont c'est la première responsabilité, ce sont eux les premiers responsables de l'éducation chrétienne de leurs enfants. Bah, si les parents disparaissent, il n'y a plus du tout de parrain. Si le père est à la fois parrain et père, s'il meurt, bah, il n'y a plus de parrain. Alors que précisément, le parrain, c'était pour remplacer le père.
Puis autrefois, en plus, comme il y a un lien spirituel, vous ne pouvez plus aller après avec sa femme, donc le coup de la reine, je ne sais plus quoi qui était, la concubine qui voulait épouser le roi, elle lui a dit ben, soyez la marraine de votre fils. Ah oui, elle est devenue magnifique.
Hop, ah, ensuite
coup, elle était obligée d'avoir la révolution de mariage. Parce que.
Oui, elle ne pouvait pas épouser.
Elle ne pouvait plus vivre avec son mari.
Oui, c'est un joli coup, ça. C'est bien une histoire de femme, ça. C'est bien trouvé. Ben trovato. Autre chose. C'est tout? Non? On ferme?
Non? Dans les baptêmes d'adultes, la plupart du temps, la confirmation est donnée immédiatement.
Alors, ça dépend. Ça dépend des endroits. Elle peut, moi je l'ai fait ça. Hein? Elle peut, mais avec l'autorisation de l'évêque. Parce qu'il fallait être discret. Normalement, ça veut dire le fonctionnement du catéchuménat. Hein? Le catéchuménat, c'est donc l'institution diocésaine qui s'occupe de la catéchèse et de l'accession au sacrement des adultes. Alors, ça dépend donc des diocèses, là aussi. Le catéchuménat, il y a des diocèses où on fait des baptêmes d'adultes. Vous savez que normalement, les baptêmes d'adultes, on les fait à la Pâques ou à la Pentecôte, hein, comme la tradition primitive de l'Église. Souvent, quand on fait à Pâques, on donne la confirmation à la Pentecôte. Vous voyez ? Moi, quand je m'occupais de catéchuménat à Paris, c'était ça. On baptisait les gens dans la nuit de Pâques, et à la Pentecôte suivante, donc 50 jours après, on les confirmait. Je trouve que c'était très bien, comme symbolisme. Je ne sais pas pour quelle raison. Enfin, si, je m'en doute, depuis un certain nombre d'années, à Paris, on confirme les gens que l'année d'après, leur baptême. Je dois dire que moi, je trouve pas ça bien, que les adultes, qu'on fasse attendre pour les enfants du catéchisme, je comprends, pour continuer leur catéchèse, les adultes, ou bien ils sont sérieux ou ils ne sont pas. Bon, s'ils sont sérieux, ben on peut les confirmer tout de suite. S'ils n'y sont pas, il ne faut pas les baptiser. Hein? Mais une fois qu'ils ont fait le passage du baptême adulte, eh ben, qu'ils aillent jusqu'au bout. Et puis ils ont besoin de la confirmation, encore plus comme adultes. Alors je ne sais pas pourquoi. Justement, c'est, j'ai baptisé là une musulmane, il y a, ça va faire combien, 3 ans, oui. 2 ou 3 ans, je ne sais plus. C'était des conditions très délicates parce qu'il ne fallait pas que ça se sache. Donc on a fait ça dans un endroit discret. Et j'ai demandé justement l'autorisation de la baptiser à l'évêque, hein, c'est-à-dire en fait au directeur du catéchuménat, qui ne voulait pas. En me disant, ah non, c'est l'évêque, il est timoré, hein, enfin c'est plus lui d'ailleurs maintenant, il est timoré, très gentil, mais c'est l'évêque qui confirme les adultes et qui les baptise. Bon. Alors, mais ça, je lui dis non, on ne peut pas faire venir l'évêque justement, parce que ça risque de se savoir. Il faut que ça soit très discret, secret même. Alors, il a calé. Oh, je lui dis zut, moi j'ai téléphoné à l'évêque, j'ai téléphoné au cardinal, je lui ai expliqué la chose. Il m'a donné séance tenante l'autorisation de baptiser et de confirmer la fille dans la foulée, le jour même, le jour de Pâques d'ailleurs, le matin de Pâques. Lui, il aurait voulu qu'elle vienne au catéchuménat. Ah oui, fais-tu le catéchuménat discrètement, mais qu'elle vienne à la cérémonie. Il parle à Notre-Dame, où il y avait 2000 personnes. Comme discrétion, c'était réussi.